France Culture.
Talmudique. Dominique Bourrel, bonjour.
Bonjour.
Dominique Bourrel, c'est un grand plaisir de vous retrouver cette semaine pour poursuivre notre conversation sur l'histoire de l'Université hébraïque de Jérusalem. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche émérite du CNRS, spécialiste du judaïsme allemand moderne et en particulier des figures de Moses Mendelssohn et de Martin Buber. Nous avons vu lors de la première émission, la semaine dernière, que cette université avait été conçue à la fin du 19e siècle et dans le premier quart du 20e siècle, avec une pose de la première pierre sur le Mont Scopus en 1918. Nous allons maintenant découvrir le premier corps professoral, les matières enseignées et les étudiants qui constituèrent les premiers auditeurs de cette université. Commençons par ces premiers professeurs. Comment s'est fait leur recrutement ? N'oublions pas qu'il n'y avait pas encore d'État et que la population du Yishuv, c'est-à-dire du foyer juif en Palestine mandataire, était encore relativement petite d'un point de vue démographique. D'où vinrent tous ces professeurs, Dominique Bourrel ?
Alors c'est une excellente question parce que en 1925, il n'y a pas 1 million d'habitants dans la Palestine mandataire. Il y a à peu près 80 000 chrétiens, 137 000 juifs et 690 000 musulmans en gros. Donc on a là quand même à peine 1 million de personnes qui est là. Ces personnes sont des gens qui se répartissent sur 5 ou 6 langues, voire même 6 ou 7 cultures. Et donc bien évidemment, quand on a créé une université, on s'est demandé de quelle culture on allait parler et à quoi elle allait servir. Avec, comme je le dis toujours, avec un peu de cynisme, les yeshivotes qui regardaient de près ce qu'on allait faire là, notamment à la création de l'Institut d'études juives. Je pense que pour les neuroprocesseurs ou la chimie ou quelque chose comme ça, c'était moins grave. Mais pour les centres d'études juives, pour la philosophie, c'était très important. Donc, on avait lancé quelques invitations, puisqu'il y avait 2 ou 3 grands centres en Europe, 4 même avec Saint-Pétersbourg. Il y avait 2 grands séminaires de rabbins à Berlin, il y en avait un à Breslau, il y avait celui de Budapest et aussi à Vienne. Et donc là, on avait des gens qui étaient tout à fait capables d'enseigner, pas seulement d'ailleurs les matières juives, mais en tout cas la philosophie, les langues étrangères. Donc à ce moment-là, il y a eu un comité directeur dirigé par Weizmann, qui a, comme on fait aujourd'hui, donné des noms, demandé des papiers, des lettres de droite et de gauche, de recommandations. Mmh. Ça n'a pas beaucoup changé. Et on avait décidé de commencer, bien sûr, par l'Institut d'études juives. Comme je l'ai dit, la médecine, j'allais dire, tropicale, et la microbiologie et la chimie. Et donc là...
Parce que Weizmann était chimiste lui-même.
Lui-même. Et donc là, assez vite, il y a eu un certain consensus. Mais ce qui était intéressant, justement, c'est que ce n'était pas tous contraire à ce qu'on pourrait penser, tous des Allemands ou tous des gens de mythologie européenne. Simplement, ces Hongrois et ces Polonais, ils ont eu la bonne idée de faire leur thèse en Allemagne. Et donc là, pour les Hongrois, c'est un peu normal, sinon c'était quand même assez difficile à lire. Et donc, si vous voulez, il y a quand même effectivement ce dénominateur commun de la mythologie européenne, c'est-à-dire, pour nos disciplines dont on parle pour l'instant, c'est le retour à la philologie et à l'histoire, c'est-à-dire les deux grandes disciplines qui sont au cœur de cette opération, et qu'on critique d'ailleurs aujourd'hui, et qu'on pourrait critiquer plus largement, c'est la philologie et l'histoire. Et donc ça, c'est quelque chose qui naît même quasiment à la Renaissance en Europe. Alors, très tôt, il y avait eu 2 questions. Qu'est-ce qu'on fait avec la philosophie? Est-ce qu'on le garde dans l'Institut d'études juives, Has V'Halila, l'Institut d'études arabes, en disant, en plus, on les a à la porte à côté. Donc, il est hors de question de les garder dans le centre d'études juives. Et donc, très tôt, alors la philosophie a dû attendre un peu, mais en 26, donc il y a exactement 100 ans, on a créé un institut d'études arabes, en voulant même inviter des gens de Damas ou des gens du Caire. On a les noms, on a les lettres là, qui sont bien sûr très intéressantes, pour prendre quelqu'un dont c'était la langue maternelle. Parce que l'idée de tous ces arabisants de mythologie européenne et d'Allemagne, c'est que l'arabe, c'est pas une langue morte. L'arabe, c'est pas le latin. L'arabe, c'est pas un truc qui doit nous aider à apprendre l'hébreu, ce qui était souvent quand même la doxa à l'époque. Hein, et la raison pour laquelle, aujourd'hui, c'est des trivialités. Il devait y avoir des lecteurs, des cours en arabe, et des choses qui arrivent depuis longtemps déjà. Et à l'époque, ça a été l'objet de pas mal de discussions.
Mais ma question était, si je peux revenir dessus, Dominique Bourrel, d'où venaient ces professeurs? Alors, vous avez cité justement des universités européennes, mais il m'a semblé, vous l'avez suggéré, que même les Hongrois faisaient leur thèse en allemand, mais on a l'impression, en lisant les articles que vous citez ou que vous avez écrits sur cette question, que le pôle, on peut dire, de ressources de ces professeurs était l'Allemagne. C'est-à-dire que même s'ils venaient des États-Unis, même s'ils venaient d'Angleterre ou d'ailleurs, ils avaient été formés en Allemagne. Et de ce fait, on pourrait dire que l'université hébraïque de Jérusalem était à son commencement, et vous allez nous dire aujourd'hui, était à son commencement comme une université allemande.
Absolument, notre consul général est invité à l'inauguration et écrit immédiatement au Quai d'Orsay en disant « c'est une université allemande ». On nous raconte des coups avec ces trucs juifs et ces trucs hébraïques, tout le monde parle allemand, les cours vont être faits en allemand, etc. Et ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est que, et ce qu'on oublie toujours, c'est que l'université allemande, à l'époque, c'est le sommet du monde. C'est le sommet du monde. Les universités américaines, je ne veux pas être désagréable, mais surtout que maintenant, il y a un juge du Kansas qui veut faire un procès à Platon à cause des androgynes qui apparaissent dans le banquet de Platon. Vous voyez. Mais à l'époque, c'était vraiment quelque chose de qui venait de naître d'ailleurs presque, n'est-ce pas? Il y a eu un boost absolument extraordinaire avec toute cette émigration, pas seulement d'ailleurs celle d'après 33, mais aussi les flux qui sont là en permanence. Donc l'université allemande, c'est la grande université au monde, dans toutes les disciplines, ou presque, on pourrait toujours trouver des petites choses un peu différentes. Mais d'ailleurs, les Français le savent très bien. On envoie Raymond Aron, on envoie Jean-Paul Sartre, on envoie Cavaillès. La senior pars de l'université française va faire un an d'études, au moins en Allemagne, dans toutes les disciplines. À quelques-unes, c'est pas toujours le cas. Mais donc, vous voyez, donc c'est ça qui explique cela aussi. C'est pas seulement, simplement parce que les gens viennent de là. C'est que la grande université au monde est celle-là, puisque vous savez qu'il y avait ce fameux modèle allemand, ce modèle de Humboldt, qui était l'enseignement et la recherche. On fait les deux en même temps. Et c'est sur ce modèle-là qu'a été créée, d'ailleurs, l'école pratique des hautes études. C'est pour ça qu'elle s'appelle pratique des hautes études. C'était pas seulement rhétorique, comme on a chez nous, encore une fois, je peux en parler sans être cynique, dans le monde catholique, dans le monde jésuite, dans la grande leçon, le truc oral. En un quart d'heure, vous avez montré que ça, là, c'est pas du tout le cas à Berlin et à Göttingen. C'est que le professeur arrive et fait son livre avec les jeunes étudiants, et les étudiants deviendront eux-mêmes des professeurs. Et ça, c'est bien évidemment la matrice de l'université hébraïque. On lui a d'ailleurs reproché, bien évidemment. D'autant plus que après 14, comme on l'a dit la dernière fois, c'était déjà plus une très bonne recommandation. Mais vous imaginez qu'à partir de 33, et d'ailleurs c'est tout, là ça déborde un peu sur l'autre sujet fascinant des Yekés, des Juifs allemands. Vous savez, on les appelait die bei uns nikim. C'est parce qu'ils commençaient toutes leurs phrases en disant bei uns, chez nous, c'était mieux. Il y a quand même, en 42, 43, 44, entendre ça à Jérusalem, si vous voulez, ça a posé quand même quelques difficultés. Donc, on a oublié ça, cette place absolument centrale. Il y a une masse comme ça de concepts, d'idées, de traditions, et c'est une tradition protestante. C'est là où ça devient intéressant. Voire même calviniste, quand il s'agit de la Prusse, qui sont, comme chacun sait, toujours beaucoup plus proches du monde hébraïque, puisqu'ils rejouent eux-mêmes l'histoire du Nouvel Israël, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a créé l'école pratique de hautes études. Et quand vous regardez ce que vous avez déjà fait, attentivement, la liste des professeurs de la société asiatique, de toutes ces disciplines-là, c'est bien évidemment fait, les amis de Henri Heine, sans parler de Marx, bien évidemment, c'est bien évidemment fait par des juifs allemands, convertis, pas convertis. Vous savez, je cite toujours cette phrase de Claudel merveilleuse, qui dit « il n'y a pas assez d'eau dans un océan pour convertir un juif ».
Cette belle phrase de Claudel souligne aussi, je pense, le fait que ces professeurs allemands, même si on met des guillemets sur allemands, parce qu'ils peuvent venir de Hongrie ou d'ailleurs, appartenaient pour la plupart à ce qu'on appelle le sionisme culturel, qui s'oppose à un autre courant que l'on appelle le sionisme politique. Est-ce que cette distinction est pertinente lors de la création de cette université et encore aujourd'hui, Dominique Bourrel?
Alors aujourd'hui, c'est plus difficile à repérer, mais à l'époque, c'est vrai que c'est vraiment ce problème-là qui naît d'ailleurs déjà avec Herzl, parce que ce qu'on a appelé le sionisme politique, c'est les gens qui attendaient qu'on leur donne un État. Et c'est pour ça que cette fraction dont vous parlez, qui sont aux manettes là en 1901 pour faire leur université, il y avait toujours la blague habituelle qui passait, c'est des fractionnistes ou des fractionnistes, c'est-à-dire les fracs. Ils sont en frac, en queue de pie, et Herzl, on pense qu'un jour, on va dire, mais messieurs les Juifs, voilà votre État, et les autres, ils disent pas du tout, on va jamais nous les donner, et donc, de toute façon, il faut le prendre, faut le faire tout de suite, et c'était les autres fractionnistes. Donc, c'est vrai que ce débat, et l'université hébraïque est un porte-avions pour ça. J'ai parlé pendant longtemps avec un ancien assistant de Buber qui était Eisenstadt, qui était le grand sociologue qui est mort il n'y a pas très longtemps. Il a dit, il sortait, comme les magiciens, vous savez, qui sortent de leur poche des colombes, des œufs, des mouchoirs. Il faisait ça avec les citations, tout ça dans une langue originale, bien évidemment, Dostoïevski, etc. Donc ça, c'était quelque chose de tout à fait extraordinaire et de très nouveau d'ailleurs. Parce que dans ce, ici, c'est un endroit où il y avait encore la malaria, où on avait, c'est pour ça qu'il y avait besoin aussi d'écoles de biologie,
de médecine
de physique,
tropicale.
Etc. Voilà, absolument.
Alors nous avons les professeurs, il nous faut maintenant des étudiants. Quelles étaient leurs origines? Est-ce qu'ils sont venus aussi seulement du Yishuv, c'est-à-dire du lieu, ou du monde entier, Dominique Bourrel?
Alors, il y en avait beaucoup plus de Yishuv qu'on pensait. On s'aperçoit en réalité que dès 1900, 1901, 1902, il y a déjà des syndicats de professeurs, il y a déjà dans toute la Palestine des écoles secondaires, quoi, où on enseigne déjà en hébreu, et où, ce qui est important de signaler, c'est aussi des femmes qui enseignent et qui écoutent. Et tous ces gens-là, j'allais dire, c'est des clients potentiels. C'est des étudiants qui sont là et qui vont aller naturellement à l'université hébraïque. J'ai lu les dernières statistiques, ils ont commencé à une centaine, surtout au centre d'études dans les matières juives, et la moitié étaient des auditeurs libres, ou étaient d'ailleurs les collègues. Vous avez la liste, et vous voyez bien évidemment, les gens allaient au séminaire de leurs collègues, souvent c'était des gens qui se connaissaient d'avant. Mmh. C'était pas seulement des bacs plus 15, et des gens qui font des livres d'intello.
Vous avez dit qu'il y avait une centaine d'étudiants au début, aujourd'hui il y en a 25 000 je crois. La question qui est sans doute sur toutes les lèvres ou toutes les oreilles, qu'en est-il alors, mais aussi aujourd'hui, des professeurs et des étudiants arabes? Parce que vous avez dit qu'il y avait 600 000 arabes à l'époque, 137 000 juifs et 80 000 chrétiens, si je me souviens bien. Est-ce que cette université était créée pour l'ensemble de la population parce qu'elle était hébraïque et justement non juive?
Alors c'est ça, je suppose que c'était l'utopie qui était là, mais dès 1929, où il a commencé à avoir des drames et des affaires épouvantables, ça a bien évidemment solidifié les haines et immédiatement probablement empêché même ces échanges. Comme ils ont créé cet institut d'études arabes en 1926, mais ils avaient aussi des juifs qui connaissaient très très bien l'arabe. Vous savez que l'arabe était obligatoire dans ces séminaires que j'ai cités tout à l'heure. L'arabe est obligatoire à Berlin au Rabbinerseminar. Et d'ailleurs, nos grands maîtres, je pense à Vaïda, je pense à Altman, bon, ces gens-là, ils auraient pu faire une carrière d'arabisant. Ce qu'on retrouve d'ailleurs maintenant, effectivement. Et d'ailleurs, celui que je préfère, qui s'est occupé après de la Guénisa du Caire, Goten, qui était sur le même bateau que Scholem, c'est des gens qui arrivent en 23, donc qui sont vraiment aux manettes, eh bien, il était l'inspecteur général d'Hébreu, comme on dirait aujourd'hui. Il pensait qu'on ne pouvait pas recruter un professeur d'Hébreu pour un lycée qui ne sache pas l'arabe, en disant c'est pas la peine, on ne peut pas enseigner et comprendre cette langue s'il sait pas l'arabe. Donc vous voyez les drames qui se sont passés entre-temps. Et puis ces arabisants allemands sont des gens de première force. Ils avaient commencé une concordance de poésie avant l'islam, qui était dirigée d'ailleurs par Karl Heinrich Becker, par un orientaliste allemand, qui était en même temps ministre de la République de Weimar. Donc on voit, vous voyez, c'est le Clemens Heller de l'époque, c'est des business managers, qui étaient un arabisant. Et donc ils ont commencé à mettre au point des projets, et encore une fois, d'édition critique, d'édition de textes. Donc il y avait dans le monde juif des ressources suffisantes, bien évidemment, qui pouvaient faire des cours en arabe, qui pouvaient traiter de la philosophie arabe. Et c'est pas à vous que je vais apprendre qu'une grande partie de la philosophie juive est écrite en arabe. Donc de toute façon, ça s'est installé tout de suite. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les gens ont dit, on va faire immédiatement un institut séparé. Et alors, ces juifs allemands, ils ont dit, bon, mais c'est très bien, on va faire Maïmonide, la philosophie, le monde gaonique, tout ce que vous voulez, mais on va aussi faire le tous les jours.
Oui.
Et donc, on va avoir des gens qui vont aller, par exemple, même Gotain, il fait un truc sur les Yéménites. Sa grande œuvre, avant la Guénisa, c'est les Yéménites, quasiment comme un sociologue.
Quoi, oui.
Donc ça, c'était quelque chose de très impressionnant.
Alors, c'est dommage que ce projet de parler l'arabe pour tous ait disparu, parce que je pense que c'est peut-être une des solutions à un rapprochement réel, concret, entre les différentes parties en opposition. Alors, dans un premier temps, l'université se développe grâce à l'œuvre de Yehuda Magnes, qui s'installa à Jérusalem en 1923 et qui se consacra au projet. Chaim Weizmann s'occupa, quant à lui, du projet scientifique, soutenu par des comités anglais-américains. Il y a eu trois petits instituts de recherche qui furent ouverts à ce stade, études juives, chimie et microbiologie. Mais je crois savoir que trouver un professeur de Bible fut des plus compliqués, oui, Dominique Bourrel.
Ben oui, bien évidemment, parce que d'ailleurs, ils voulaient tous enseigner quelque chose d'autre, parce qu'ils savaient bien qu'ils étaient examinés à la loupe, attendus. Et alors, c'est pour ça, on le verra dans quelques minutes, que le Rav Kook, qui a été invité, qui a fait même la première intervention le jour de l'inauguration, lui, il n'avait pas de problème. Il est venu, il a fait son discours, alors que beaucoup de ses disciples ont dit « Vous ne pouvez pas aller avec ces gens-là ». C'était vraiment l'abomination de l'abomination. Et alors, la Bible, on les voit, ils font de l'hébreu mishnique, ils essaient de tourner un peu les problèmes. Et ensuite, jusqu'au moment où ils sont arrivés à trouver un homme merveilleux, ça ne va pas vous étonner, qui était italien, qui s'appelait Cassuto, qui savait lui aussi toutes les langues, bien évidemment, qui était ou modérément orthodoxe, ou orthodoxe éclairé, ou enfin italien, quoi, enfin, qui avait été professeur à Florence et professeur à Rome, qui avait été bien évidemment éjecté. Et alors, c'est lui qui a été un des grands professeurs de Bible, parce qu'après, c'était pas très difficile, il suffisait de se cacher derrière, si je puis dire, la philologie. Et n'oubliez pas qu'à Jérusalem, il y a 3 ou 4 grands établissements d'enseignement des langues anciennes et de la Bible.
Très tôt, il y a la création d'un département d'arabe, vous venez d'en parler. Alors que concernant la chaire de Yiddish, on en a parlé la semaine dernière, vous dites quelque part que le débat concernant sa création aurait pu engendrer une autre guerre mondiale.
Ah oui, absolument.
Tellement c'était,
c'était terrible.
Virulent.
Bien sûr, parce que si vous voulez, il voulait faire autre chose que pas, et il voulait pas se dire on va pas revenir dans avec cette langue du ghetto, avec ce jargon, comme on appelait ça à l'époque, etc. Il faut jamais oublier, il y avait pas d'argent, il y avait pas de chaire, il y avait pas, on n'allait pas commencer à faire ça. Et alors, c'est Klausner qui a mené la bagarre, alors que c'est des gens qui se parlaient en Yiddish entre eux. Vous comprenez, c'est ça qui est tout à fait extraordinaire. Et alors, dans cet institut d'arabe, ce qui est intéressant, c'est que c'est des gens de Francfort et de Berlin. Le premier, c'est Horowitz. Le deuxième, c'est Weil, qui était bibliothécaire. Et le seul qui n'était pas visiting, c'est le dernier, c'est Léo Arié Mayer, dont le musée Orient Museum, qui est à Rehavia, porte le nom. Et lui, alors, il est resté, on a sa leçon inaugurale, il a commencé. Mais là, vous voyez bien, il a fait plutôt l'histoire de l'art. Comme ça, on ne fait pas des choses qui fâchent non plus. On fait l'histoire de l'art oriental, il savait bien évidemment un arabe absolument parfait. Alors pour la Bible, ça a été ça la question. On a fait un peu de lexicographie. Et puis après, c'était l'homme de Lemberg, la Tursinaï, qui s'appelait donc Torchiner, qui lui était quelqu'un de rayonnant. C'était des gens qui étaient tellement savants qu'on ne pouvait pas faire grand-chose contre eux.
On a tous ces professeurs, maintenant on a ces étudiants, on a vu. Et il faut arriver à l'inauguration. 2 jours inaugurales ont marqué la création de l'université. La première en 1918, on en a parlé la semaine dernière. La seconde en 1925. Beaucoup de gens prirent la parole. Vous avez parlé du Rav Kook, mais il y a eu aussi le poète Bialik, dont le discours, certes trop long, fut remarquable, surtout par le fait que, d'une part, il a comparé Lord Balfour, qui était présent, il l'a comparé au roi Cyrus, roi des Perses, cité dans le dernier chapitre de toute la Bible hébraïque, dont il constitue la conclusion, et que, de facto, par cette comparaison, il donnait à penser que cette université était le nouveau temple de Jérusalem, un temple de l'esprit et de la communion des intelligences universelles. Dominique Bourrel.
Oui, c'est assez joli. C'était en tout cas dans l'utopie assez vrai. C'est-à-dire qu'il y avait justement un endroit où toutes ces traditions intellectuelles, toutes ces traditions culturelles étaient ensemble. Enfin, pas tout à fait ensemble, mais étaient rassemblées. Et pas ces universités nationales, ou qui étaient d'ailleurs à chaque fois une arme du nationalisme. C'est que maintenant, on le reproche à l'université hébraïque. Mais malheureusement, si je puis dire, ça sert à ça aussi, une université. Les gens qui arrivent dans des fonctions politiques, etc., c'est des gens qui, la plupart du temps, viennent de l'université locale, j'allais dire autochtone. Alors, il y a une histoire. Alors, c'est vrai que Balfour, Magnès n'était pas content parce qu'il savait très bien que du coup, la population arabe de Jérusalem allait très mal le prendre. Il y a eu la grève, les magasins étaient fermés, alors que les professeurs allemands voulaient parler justement avec des gens avec lesquels ils étaient déjà en contact. Et il y a une citation absolument délicieuse sur Balfour qui vient de notre consul général de France en Palestine, Gaston Maugras, qui écrit donc au ministère des Affaires étrangères, je cite, « Lord Balfour, qui ne lit pas les journaux anglais, lit encore moins les journaux arabes, et il promène depuis 10 jours à Jérusalem, sans préjudice des parties de tennis, une bonne grâce charmante, l'aisance souveraine d'une conscience sans tache et la plus heureuse absence de curiosité à l'égard de la politique locale que pourtant son nom domine. Ce qui frappe le plus chez cet homme dont le nom est peut-être destiné à rester éternellement associé à celui de la Palestine, c'est son peu de connaissance sens de ce pays. Et là, la dernière phrase est magistrale. On a l'impression que ce n'est que longtemps après avoir signé la déclaration Balfour que le restaurateur de la nation juive s'est avisé d'ouvrir un atlas pour y chercher le National Home qu'il avait créé.
Mmh. Il faut peut-être expliquer ce que c'est que la déclaration Balfour, même si tout le monde le sait.
Voilà, là j'ai peur qu'il y ait de plus en plus de gens qui le sachent, parce que c'était celle qui avait accordé, c'est une lettre adressée à un des membres de la famille Rothschild, un national home, d'où l'allusion aux Juifs, en disant l'Angleterre voit d'un favorable, c'est aussi très très alambiqué, la création d'un national home pour les... Et on oublie toujours que c'est à peu près, à quasiment la même semaine, ou deux semaines après ou avant, j'ai plus ça dans la tête, la fin de la révolution bolchévique. Mais dans la même semaine, vous avez la révolution dite d'octobre, la révolution bolchévique et la déclaration Balfour. C'est extraordinaire.
Viele zu mir sagen an jene Tage, Herr, 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 haben wir nicht deinen Namen geweissaget, haben wir nicht in deinen Namen Teufel ausgetrieben? Es werden viele zu mir sagen an jene Tage, Herr, 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 haben wir nicht deinen Namen geweissaget? Haben wir nicht in deinen Namen Teufel ausgetrieben? Ausgetrieben? Haben wir nicht in deinen Namen viel Tage getan? Dann werde ich Ihnen bekennen, ich habe euch noch nie erkannt. Weichet, weichet, weichet alle. Dann werde ich Ihnen bekennen, ich habe euch noch nie erkannt. Weichet, weichet, alle. Von mir weichet alle.
Bach, cantate BWV 45, direction Hans-Christoph Rademann avec la Société Bach des Pays-Bas. J'ai appris, Dominique Bourrel, que vous écoutez au moins une cantate de Bach par jour. Pourquoi cette passion, si on peut dire? Qu'est-ce que Bach vous apporte?
Je pense que Bach, c'est comme l'existence du peuple juif, c'est une preuve de la transcendance. Alors, on peut après décliner ça un peu partout.
Expliquer, parce que ça, c'est...
Parce que vous voyez bien que Mauricio Kagel disait toujours, parmi les musiciens, on a des athées, on a des gens qui croient un peu à tout, etc. Mais il n'y en a pas un qui ne croit pas en Jean-Sébastien Bach. Alors, c'est vrai que j'ai à l'époque, en tout cas, une très grosse culture musicale. J'étais dans une famille de musiciens, avec Vaison la Romaine, à Cœur Joie, Europa Cantate, etc. Et puis, donc, j'ai écouté en boucle, et encore aujourd'hui, c'est vrai que c'est très rare qu'effectivement, je laisse passer une journée. J'ai chanté l'oratorio de Noël, par exemple, sous la direction de Michel Corbeau, ce qui était un truc absolument extraordinaire.
Vous êtes aussi un musicien de rock.
Oui, absolument. Enfin, j'étais comme tous les adolescents, quoi. J'avais un orchestre qui jouait pas beaucoup de. À l'époque, il jouait pas beaucoup de Jean-Sébastien Bach, donc j'ai passé pas mal de temps, effectivement, à aller dans les concerts de Johnny, qu'on allait écouter avant que la musique sorte, et on la jouait quasiment en même temps que ses premiers enregistrements.
Est-ce que c'est cette même transcendance que vous trouvez chez Bach, qui vous a amené à la fréquentation de la culture juive et de son lien fort avec la culture allemande, qui vous a invité à travailler sur ces questions pendant toute votre carrière universitaire et jusqu'à aujourd'hui. Et votre recherche sur l'université hébraïque en est un des plus beaux exemples, me semble-t-il, quand vous avez parlé des professeurs d'origine allemande. L'occasion de nous parler des juifs heureux, Dominique Bourrel.
Ben oui, parce que vous savez, je mène un combat qui est perdu d'avance pour qu'on ne réduise pas l'histoire des Juifs à la Shoah, l'histoire des Juifs aux martyrs, etc. Et donc, ces professeurs, ces Yekés dont on a parlé, comme vous savez...
Traduisez Yeké parce que vous l'utilisez beaucoup.
Ah oui, pardon, c'est les Juifs allemands. C'est comme ça qu'on est de manière dérogatoire. Aujourd'hui, c'est une aristocratie, mais à l'époque, c'était dérogatoire parce que c'était les gens qui avaient toujours leur Yaké, qui étaient en costard 3 pièces à 40 degrés à l'ombre. On les appelait les Yekés. Et puis aussi, quand on savait un peu les ça veut dire Yehudi caché Havana. T'as des types qui ont rien compris, quoi. Il faut faire répéter deux fois les phrases. Et c'est vrai que c'était les seuls qui arrivaient à l'heure au rendez-vous. C'était les seuls gens un peu structurés, puisque c'était des Allemands. Mais ces Yekés qui habitaient dans certains quartiers, dont Rehavia à Jérusalem, ils faisaient de la musique tous les soirs. Et j'en ai vu encore dans les années 80. Ils venaient en tong, si je puis dire, mais avec les partitions. C'est la raison pour laquelle vous avez bien fait de passer ce formidable morceau de musique. Il y a toute une histoire aussi musicale, toute une histoire juive musicale et bien évidemment allemande aussi. Dans mon cas, je suis pas sûr qu'il faille aller chercher les choses aussi loin. Je suis simplement une espèce de produit dérivé entre Lévinas et Wiesmann. C'est par chance, entièrement, j'aurais pu habiter ailleurs. J'ai eu, en licence de philo, ces deux profs en même temps. Et donc après, forcément, il n'y a pas à réfléchir longtemps.
Lévinas
que j'ai eu à la Sorbonne.
Du côté du judaïsme.
Juif, absolument.
Et Wiesmann, du côté
allemand, qui était lui-même un élève d'Adorno, qui venait directement de l'université de Berlin.
Et donc, votre passion, c'est la rencontre entre
absolument.
Le judaïsme.
Absolument.
Et alors, on apprend dans un très bel entretien avec Ruben Honigmann sur Academ que certaines personnes sont étonnées quand elles apprennent que vous n'êtes pas juif, Dominique Bourrel. Racontez-nous l'anecdote avec Yosef Raïm Yerushalmi.
Alors, j'ai eu une chance incroyable quand j'ai voulu aller passer un an à Harvard parce que le spécialiste de Mendelssohn, Alexander Altman, dont j'ai parlé tout à l'heure, y était. Et donc, comme vous savez, quand vous avez une bourse et vous allez un an dans une université, vous avez un advisor, vous avez un type qui vous surveille de manière assez lâche, hein, juste pour savoir que vous n'alliez pas passer votre temps dans les boîtes de nuit ou à faire autre chose. Et c'était Yosef Yerushalmi.
Le plus grand historien.
Voilà. Donc je fais sa connaissance. Je vais à son séminaire d'ailleurs. À l'époque, il faisait plutôt l'histoire séfarade, mais le type était assez exceptionnel, très sympathique, bien évidemment. Et parlait l'allemand, le français, l'espagnol, l'hébreu, tout ce qu'on aime. Et 20 ans après, vous vous souvenez, il est venu invité par l'école des hautes études. On a traduit ses livres. Zahor, et puis tous ces livres sur l'histoire et puis Freud, tous ces livres sur l'histoire juive, et un jour il me convoque et il me dit, mais Dominique, il y a des bruits qui circulent sur vous. Alors j'ai dit, bon, ça y est, ça va être la fin de ma petite carrière.
C'était quoi les bruits?
Vous n'êtes pas juif.
Oui, alors que vous croyez qu'il allait vous dire que vous jouez du rock,
c'est ça? Oui, c'est ça, ou que j'aimais le champagne, ou que je passais pas mon temps quand même dans les bibliothèques, etc. Et je lui dis, écoutez, alors ça, c'est pas du tout des rumeurs, ça, c'est vraiment la triste réalité, peut-être pour vous, mais c'est une vraie réalité. Alors il regarde, il a ce mot merveilleux en me disant, mais vous me l'avez jamais dit. Et je lui dis, Yosef, vous me l'avez jamais demandé. Et il dit, vous voyez, comme on est malade, on peut pas s'imaginer une seule seconde qu'un type avec le CV que vous aviez, aille un an, à Harvard, pour faire une thèse sur ceci et cela, et qu'il soit pas juif. Ben, je lui dis, voyez. Et pour lui, c'était effectivement une grave maladie, quoi. J'ai dit, mais vous demandez pas ça aux tibétologues, vous demandez pas à Laurence ou à Keppel, s'ils sont musulmans. Vous demandez pas aux... Alors bon, maintenant, c'est un peu différent. Et on va avoir comme collègues des gosses de couples mixtes, etc. Donc ces gens-là, ils seront aussi dans la religion et dans la langue locale, mais à notre génération, pas du tout. La moitié de l'école pratique des hautes études, j'ai une copine qui était directrice du laboratoire de coréanologie du Collège de France, qui enseignait en coréen sans notes. À la société asiatique, les gens enseignent en khmer sans notes. Ils sont nés dans le Lot-et-Garonne.
Dans le cadre de ces deux émissions sur l'université hébraïque de Jérusalem, j'ai évoqué ce côté biographique et plus personnel vous concernant, ce qu'on vient de faire à l'instant. C'est peut-être pour que l'on comprenne que cette symbiose judéo-allemande qui est au fondement de cette université, comme vous nous l'avez si bien expliqué, est peut-être aussi une symbiose de la culture chrétienne et de la culture juive, un modèle de dialogue qu'il est peut-être nécessaire de souligner pour que l'on n'en oublie pas la fécondité. Et je pense ici, par exemple, à Rosenzweig et sa pensée des deux voies. Dominique Bourrel.
Oui, vous avez tout à fait raison. Il y avait d'ailleurs, très tôt, il y a eu des contacts avec des prêtres, avec des... On l'a dit tout à l'heure, il y avait l'école biblique qui était pas loin quand même, des gens qui savaient le grec, des gens qui savaient très bien l'hébreu. Et puis, il y avait aussi toute cette culture protestante où les gens savaient très bien l'hébreu aussi. Et donc, si vous voulez, c'était quand même fait pour être ensemble, à ceci près qu'effectivement, ils ont été très, très impressionnés, parfois même effarés par cette renaissance de l'hébreu et où il y a cette lettre formidable entre Scholem et Rosenzweig où il dit, mais c'est un volcan que vous êtes en train de faire. On est en train de danser sur une langue dont on ne maîtrise absolument rien et qui va nous rééclater à la figure. C'est écrit en 26. C'est tout à fait extraordinaire. Cette lettre est assez connue. On peut la trouver dans les archives des sciences sociales, des religions. C'est vrai que c'était une question très importante. Et même après la Deuxième Guerre, après tout ce qui s'était passé, par exemple, les Suédois ont eu tout de suite l'autorisation de refaire un séminaire d'études sur ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Comme vous savez, Lévinas disait toujours, il y a deux erreurs quand vous parlez de l'Ancien Testament. L'un, c'est pas ancien, deux, c'est pas un testament. Ce qui est bien évidemment vrai. Mais très vite, parce que les gens ont dit, mais non, mais les Suédois, ils ont été du bon côté. Donc très tôt, de nouveau, il y a des chrétiens qui sont venus. Et puis, naturellement, l'un de mes maîtres, Marcel Dubois, qui disait sa messe en hébreu, qui était le patron du département de philosophie de l'université hébraïque de Jérusalem. Et il se traduisait du grec avec Shlomo Pines, qui lui était justement quelqu'un qui venait aussi de cette symbiose judéo-allemande. Et donc ça, c'est vrai que c'est quand même assez rare dans des universités de trouver ce cas. Mais là, cette université a vécu de ça. Et il faut espérer qu'effectivement, elle ne va pas maintenant se rétrécir. Parce que maintenant, les gens, j'allais dire, il ne faut pas être désagréable, ce n'est pas des indigènes, mais les gens, quand ils savent l'anglais, ils pensent que c'est déjà des génies des Carpates, quoi. Je veux dire, ça ne va plus être, à l'époque, le modèle américain était pour la jeune université israélienne quelque chose de tout à fait extraordinaire. Mais parce qu'on ne se rendait pas compte qu'une partie de ces universités américaines, c'est des universités allemandes.
Mais alors, qu'est-ce qu'on fait pour garder aujourd'hui encore cet esprit judéo-allemand dans cette université pour qu'elle continue à être, je dirais, vivante de par la fécondité de sa source, si on peut dire?
Oui, mais ça, oui, vous avez raison. Ben, il y a de nouveau un département d'allemand. Ça a été une saga incroyable grâce à Léa Goldberg et à Stéphane Moses. Ça a été une saga incroyable parce que quand allons créer un département d'allemand dans une université comme ça, mais c'était épouvantable. Alors, il y en a un qui est très bon, qui marche très bien, qui est très intéressant d'ailleurs. Parce que maintenant, il y a déjà une deuxième ou troisième génération. C'était des gens, ils apprennent l'allemand qui était la langue de leurs grands-parents. Et ils écrivent d'ailleurs souvent encore parfois en gothique parce que c'est la seule manière que les grands-parents, dans les grands-parents écrivaient. Si vous voulez. Alors, est-ce que c'est promis à un avenir? Ça, vraiment, je ne peux pas vous le dire. En ce moment, ça n'en a pas l'air, mais comme vous savez, les temps peuvent changer.
Merci Dominique Bourrel pour ces deux semaines de conversation enthousiaste et passionnante. Je rappelle le titre de vos ouvrages avec lesquels les auditeurs pourront se régaler. Moses Mendelssohn, La naissance du judaïsme moderne chez Gallimard en 2004. Martin Buber, Sentinelle de l'humanité chez Albin Michel en 2015. Et l'abécédaire Moses Mendelssohn qui vient de sortir aux éditions de l'Observatoire. Merci encore Dominique Bourrel.
Merci beaucoup Marc-Alain Watnin.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager. À la prise de son aujourd'hui, Alexandre Dang. À la réalisation, Alexandra Malka. Koltouv, Leitraot, au revoir. Bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.